En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français, né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert notamment des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des Longitudes lui rend donc hommage avec un cycle de conférences. Alain Harmel travaille au service de géodésie et nivellement de l'Institut géographique national. Il présente ici, dans sa conférence, les référentiels géodésiques de l'époque de Cassini jusqu'au XXIe siècle. Des triangulations classiques jusqu'à l'ère spatiale. Retrouvez dès maintenant la conférence d'Alain Harmel qui s'est déroulée à la fondation Del Duca.
Il va être bien question des référentiels géodésiques donc de Cassini au XXIe siècle, en s'entendant bien qu'on est au début du XXIe siècle. Je ne sais pas ce qui se passera à la fin du XXIe, c'est une autre affaire. Bien, bon, quelques grandes étapes, on peut tout lire, mais je pense que Suzanne en a déjà un peu parlé, sauf que là, c'est un peu concentré sur la géodésie elle-même. Donc, Monsieur Picard, l'abbé Picard, en 1669, qui fait sa première méridienne, 1672, l'Observatoire de Paris, la méridienne de Cassini, ou des Cassini, puisqu'elle était terminée, enfin, la méridienne elle-même était faite par Monsieur 1 et Monsieur 2, le 2 étant Jacques, n'est-ce pas? Donc, qui a amené un problème, d'ailleurs, qu'on verra sur la forme de la Terre, qui a amené quand même à faire des missions scientifiques extraordinaires qu'on aimerait bien pouvoir reproduire maintenant avec les budgets de l'État, ce qui n'est pas tout à fait le cas, c'est-à-dire l'arc de Laponie, l'arc du Pérou, où quand même les finances royales ont permis de faire des choses très bien. Bon, dans la fin du 18e, la méridienne de France par de Lambré-Méchin, 1795, le Bureau des Longitudes, la triangulation des ingénieurs géographes, en 1870, après la fin du Second Empire, enfin, quand on a perdu la guerre, de 70, on a réattaqué la nouvelle triangulation de la France, qui est restée nouvelle triangulation de la France jusque maintenant d'ailleurs, on appelle toujours ça la nouvelle triangulation de la France, terminée en 1991. Bon, en 1957, le premier satellite artificiel, et évidemment la naissance de la géodésie spatiale qui révolutionne tout. Bon, le GPS en 80, on a parlé du Bureau des Longitudes, donc le Service international de retraçage de la Terre dans la fin des années 80, et bon, l'histoire pour la France, l'adoption d'un système de référence RGF 93 et un réseau GPS permanent. Bien, je mets cette chronologie un peu sous forme plutôt graphique, hein, donc avec les grands organismes, l'Académie des sciences, l'Observatoire de Paris lui-même, le Bureau des longitudes, l'IERS, et toute cette chronologie donc de Picard, Cassinien, l'arc de Laponie, du Pérou, Cassini 3 pour la fin de la triangulation et la carte de Cassini, la méridienne de France de Donald-Bréméchin, triangulation des ingénieurs géographes, la NTF, et puis donc l'air spatial, et donc le but de cet exposé, de vous amener doucement des triangulations classiques à l'air spatial. Bon, les Cassini, on en a donc parlé, 1, 2, 3, 4. Donc pour nous, je viens d'IGN, qui s'appelle IGN, mais qui en fait s'appelle Institut de l'information géographique et forestière depuis le 1er janvier, tout en gardant le cycle IGN, où on a pris la forêt. Mais pour l'IGN géographie, notre Cassini à nous, c'est plutôt Cassini dit de Thurie, hein, Cassini 3, hein, qui est on va dire l'auteur de la carte de Cassini. Bien. Donc je crois qu'il y avait un Cassini 5, mais qui était botaniste. Bon, la méridienne de Cassini, je reproduis une image, moi, je ne suis pas concerté avec Suzanne, mais on a les mêmes archives, donc qui est donc la méridienne de Cassini. Bon, je rajoute un petit quelque chose, c'est-à-dire donc à l'époque, on n'avait pas de système métrique, évidemment, donc on travaillait avec la toise du Châtelet, hein, qui était, donc au Châtelet, il y avait bon, une toise faisant en gros 2 mètres, hein, 1 mètre, enfin 1 mètre 90, non, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc le résultat, c'est que quand même, un degré de latitude moyen entre Paris et Dunkerque fait 56 000, enfin moins de 57 000 toises. Paris-Collioure, le degré moyen fait plus que 57 000 toises. D'où, donc, un problème. Bon, quelles étaient les mesures, hein, je rappelle les principes de triangulation. Donc, à droite, vous voyez ce qu'est la triangulation. Donc, il faut mesurer les angles des triangles et mettre à l'échelle tous ces triangles par une base qui est mesurée, qui est en général une base de l'ordre de 10 km, qui était mesurée à l'époque avec des perches plus ou moins précises. Parce que quelqu'un a posé la question sur la précision des triangulations tout à l'heure pendant que j'étais en train de régler les choses. On pourra peut-être en parler. La précision des angles était, disons, excellente. Quoique c'était pas des angles horizontaux qui étaient mesurés, mais des angles obliques qu'il fallait ramener à l'horizontale. Donc des sources de calcul supplémentaires. Bien sûr, une orientation. Alors là, j'ai mis un azimut tel qu'on le compte actuellement. À l'époque, on devait le compter à partir du sud. Hein, bon, peu importe. Bien. Et du côté astronomique, ben, la visée d'une même étoile sur le même méridien, enfin, pas sur le même méridien, mais à son passage au méridien, parce qu'on ne pouvait pas assurer qu'un point ou un autre soit sur le même méridien. Donc on était susceptible de mesurer des différences de latitude. Mais bon, pour l'époque de Cassini, quelques biais assez importants, tels l'aberration annuelle qui n'était pas connue, puisque mise en évidence par Bradley en 1727, donc 20 arcsecondes, en rappelant qu'un... un arc seconde, enfin une seconde d'arc à la surface de la Terre représente 30 mètres. Donc là, on a une incertitude de plus ou moins 600 mètres si on parle en distance, en distance sur la Terre. Et bon, la nutation ensuite, donc un peu moindre, mais quand même 9 arcs secondes encore. Bien, donc le problème, la querelle dite de l'aplatissement qu'on a vu avec les différentes mesures du degré. Newton dit que forcément la Terre, étant donné que le jeune auteur de gravitation universelle dit que si une Terre tourne autour d'elle-même, elle va, son côté fluide va faire qu'elle aura un aplatissement. Cassini trouve par, entre, on l'a vu tout à l'heure, Paris-Dunkerque et Paris-Collioure, que l'arc de, le degré d'arc de méridien est plus grand vers le sud. Donc, lui, il dit, c'est, les mesures parlent, hein, la théorie, je ne sais pas, donc ces mesures parlent, et donc la Terre est allongée. Bon, grosse querelle. Donc, bien sûr, pour ça, on a mis au point les deux expéditions, une en Laponie, qui s'est très bien déroulée, qui a duré un peu plus de 6 mois, mais bon, simplement, ils avaient un seul degré à mesurer. Remarquez qu'il fait froid quand même là-bas. Par contre, au Pérou, où il fait plus chaud, enfin, dans tous les sens du terme, ça a duré beaucoup plus longtemps. Bon, il y avait 3 degrés, mais beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc ça a duré une bonne dizaine d'années, tout ça. Bon, au retour en 1744 des deux expéditions, on était quand même, on a mis, enfin c'est, le vainqueur de la compétition était bien Newton et la Terre était bien aplatie, voilà. Pendant ce temps-là, Cassini poursuivait sa triangulation en dehors de l'idée même de la forme de la Terre. Bien, une chose quand même que je tiens à souligner, Cassini a été le premier à introduire une, non pas une projection, parce que déjà Mercator connaissait ça, simplement l'expression en coordonnées planes d'une projection, c'est-à-dire que donc la projection est bien le fait de mettre à plat la Terre, d'accord, mais d'exprimer en x, y des coordonnées. Bien, c'était très bien de la part de Cassini. Disons que nous en souffrons toujours les désagréments maintenant, c'est-à-dire qu'on se passerait volontiers de projections actuellement, en tant qu'élément numérique. On préférerait avoir des latitudes, longitudes, comme font les marins qui travaillent sur des cartes, pourtant en projection de Mercator. Bien, c'était la première notion, c'est-à-dire donc la première notion de, finalement, de système de référence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un XY, on est implicitement dans un système de référence. Bien, donc l'achèvement de tout ça, c'est la carte de Cassini, dont je vous présente un peu donc Paris, puis je vais aller un peu vite dans l'histoire. Ensuite, les ingénieurs géographes ont fait de la triangulation et une carte dite carte d'état-major, un peu moins belle. Bon, je fais un petit clin d'œil au temps moderne, où effectivement, disons en 2011, là vous avez l'observatoire, puisque tout était centré sur l'observatoire. Point fondamental de Cassini, hein, de l'observatoire. Bien, donc là, tel que c'est vu du géoportail, avec un pixel de 20 cm, donc dans une précision d'un système international, le TRS-89, bon, c'est, disons, l'état de l'art. Bien, je ne vais pas poursuivre toute la chronologie telle qu'elle était présentée, parce que, bon, Méridienne de France, triangulation des ingénieurs géographes, je vais plutôt m'attacher à présenter la transition entre la triangulation, celle de la NTF, et, disons, les temps modernes, enfin, l'actuel, quoi. Donc de la NTF, Nouvelle Triangulation de la France, ou RGF, qui est le nom officiel de la géodésie française actuelle. Bien, donc quelques images pour rappeler les méthodes de triangulation, avec des mires qu'on visait des instruments de mesure d'angle. Ensuite, le GPS qui a fait son apparition, sous forme de GPS où on stationne des points matérialisés, faits également par la triangulation, et l'approche plus moderne, qui est celle d'avoir des réseaux GNSS, c'est-à-dire le GPS généralisé, des réseaux donc permanents. Bien. Bon, la nouvelle triangulation de la France, et on couvre la France de triangles, dont ici on ne présente que le premier ordre, qui correspond à, en gros, à 800 points, avec bien sûr une méridienne. Alors, c'est pas exactement la même que celle de Cassini. On a été capable de passer au travers de... Le cauchemar des géodésiens à l'époque était la Sologne, parce que pour trouver des points qui se voient à travers la Sologne, on ne trouvait pas. Bon, là, on avait plus ou moins réussi. Bien, cette chaîne se complète par des parallèles et, vous le voyez, tous ces cercles rouges qui sont des bases, c'est-à-dire des mesures, cette fois non pas avec des perches et tout ça, mais du fil invar, donc d'une excellente précision, c'est-à-dire qu'on pouvait mesurer à peu près à une précision du millimètre par kilomètre. Bon. C'est-à-dire que les bases faisant 10 kilomètres, on avait une précision sur les distances de l'ordre du centimètre. Bien. Et sur la propagation générale de toutes ces distances, la précision de la NTF pouvait être jugée de l'ordre du centimètre par kilomètre ou entre Dunkerque et Perpignan de l'ordre de 10 mètres. Bien, le principe de la triangulation, c'est une mesure de base, un azimut et une propagation des triangles, bien sûr, sur toute la France, avec quelques monuments. Donc là, par exemple, c'est la base, c'est-à-dire les bases en question, c'est là où on faisait ces mesures de distance, de mise à l'échelle. Un clin d'œil à Cassini, parce que c'est le point de Clermont. Les Cassini avaient un château à Thury sous Clermont. C'est-à-dire, ce monolithe était connu de Cassini. Bien, alors tout ça, ça nous demandait des observations. Un petit clin d'œil à la croix du Panthéon, qui est le point fondamental, et non, qui n'est malheureux pour la nouvelle triangulation de la France, n'est pas l'observatoire, mais enfin, c'est la croix du Panthéon rattachée à l'observatoire. C'est le transport des coordonnées de l'observatoire. Voilà. Bien, donc, des monumentations, il fallait que les visées passent, donc monter des grands signaux, monumenter avec des bornes, etc. Et bien sûr, avoir une instrumentation particulière. Bon, c'est pas, du point de vue observation, la triangulation est d'excellente qualité. Par contre, du point de vue calcul, on n'a pas eu toujours les moyens qu'on a actuellement. Donc, je vous fais un clin d'œil avec des tables de logarithmes, des calculatrices, enfin des calculettes électroniques, et puis enfin l'informatique. Mais après les années 70, évidemment, tout ça a bien changé. Il se trouve que donc les triangulations ne pouvaient être calculées en gros qu'à la main, et donc pas en bloc. Et donc, c'était plutôt un patchwork de morceaux calculés qu'on faisait recoller ensemble ensuite. Bien, donc, ça a donné cette NTF. Je vais passer très rapidement. Donc, c'est un système, il faut le souligner, bidimensionnel, deux dimensions. Bon, avec un ellipsoïde particulier, donc un méridien origine qui était le méridien de Paris, observatoire, bien sûr, défini à 2 degrés, 20 minutes, 14 secondes, 0,25 de Greenwich par convention, plus que par mesure. Ça nous donnait un réseau de 80 000 points avec une précision de l'ordre du centimètre par kilomètre. Donc, ce que j'ai dit, c'est-à-dire une précision relative entre Paris et Dunkerque qui serait de l'ordre de 10 mètres. On va voir que c'est un peu mieux, mais pas tellement mieux. À partir des années 70, et surtout les années 2000, on va dire, on est en plein air spatial avec surtout des satellites, mais pas que des satellites, on va le voir. Donc, on revient à un principe de système de référence, cette fois géocentrique, avec une origine qui est proche du centre de masse de la Terre, pas dire que c'est le centre de masse de la Terre, un axe, donc premièrement l'origine, ensuite un axe OZ qui est proche de l'axe de rotation terrestre, qui n'est toujours pas l'axe de rotation terrestre, parce que bien sûr tout ça bouge, hein, ça n'est pas possible. Bien sûr un axe OX de manière à avoir un plan méridien qui corresponde au méridien de l'heure, enfin, donc du BIH, du Bureau international de l'heure, et bien sûr un axe Y qui fasse un triède direct. Bien, donc un système de référence, c'est ce qu'on en dit, l'intérêt de savoir comment on le récupère, c'est-à-dire comment on le réalise, en fait. Donc, c'est pas parce que vous dites il y a X, Y, Z que vous n'en avez pas accès, même en mettant des tiges de fer à la place des axes des X et tout ça, ça ne donnerait pas grand-chose. Donc, tout point matériel qui a des coordonnées implicitement définit un système de référence. Bien, donc soit des points géodésiques, c'est-à-dire des points liés au sol, soit des satellites GPS par exemple, bien sûr, satellites GPS dont les éphémérides nous donneront la position, donc le repère de référence associé. rapidement là-dessus. Donc, bien, cette notion de mondialisation de la géodésie, quand même, qu'on avait commencé, quand même, à l'époque de Cassini, en allant voir la Laponie et le Pérou, bien sûr. Bon, mais là, il y a une coopération internationale forte sur l'installation et la mutualisation de réseaux GNSS. Alors, bon, tout le monde connaît GPS, GNSS un peu moins, mais à GPS se sont ajoutés maintenant Galileo, GLONASS avant, c'est-à-dire tous les systèmes satellitaires de positionnement. Bien, donc on a ce réseau de l'IGS, International GNSS Service, qui propose par exemple des éphémérides précises des satellites de GNSS, donc les positions en fonction du temps qui sont actuellement données au niveau quasi du centimètre, je dis quelques centimètres, on arrive plutôt à mieux que 2 centimètres actuellement sur les positions des satellites. Bien, tout ceci au travers d'un système de référence international, au travers de diverses réalisations du système international, ITRS serait le International Terrestrial Reference System, et ITRF, le F veut dire frame en anglais, c'est-à-dire on traduit ça en français soit par réalisation, soit par le repère physique, si vous voulez, qui est associé au système. Bien, donc là, vous avez un certain nombre de stations et surtout un éventail de techniques qui sont proposées. Hein, c'est-à-dire, bon, donc on parle beaucoup de GPS, mais donc il y a 4 techniques pour établir notre système mondial. Donc le VLB, c'est l'interférométrie à très longue base, donc avec des radiotélescopes qui observent des quasars lointains. Des quasars, c'est pas la peine de dire qu'ils soient lointains, ils le sont. Le laser satellite, qui a un gros avantage, le laser satellite, c'est on tape sur des satellites relativement proches, ça va nous permettre de définir le plus finement possible l'origine du système, autant le VLBI nous donnera l'orientation. Donc le GPS et Doris aussi, dont on va voir. Donc le GPS est bien connu. Le système Doris qui a été mis en place pour le suivi des satellites d'observation de la Terre, donc c'est plus d'une cinquantaine de stations mises à travers le monde qui permettent d'assurer la navigation des satellites d'observation de la Terre, et en retour, un réseau géodésique également. Bien, je reviens juste un peu en arrière, vous voyez quand même sur ces graphiques les plaques tectoniques telles qu'elles sont connues actuellement, les limites en vert. Donc vous voyez qu'il y a une plaque, nous on est dans une partie qui est la plaque eurasienne, parce qu'elle s'étend de l'Europe, mais elle prend une bonne partie de l'Asie. En dessous, on a la plaque africaine, etc. Dans ces différentes plaques, dans un système mondial, on est capable de définir des vitesses. Donc les vitesses sont telles que la vitesse globale est nulle, si vous voulez. Ce qui nous amène, nous, Européens, par exemple, à avoir une vitesse vers le nord-est de l'ordre de 3 cm par an, ce qui n'est pas très confortable pour nos systèmes de coordonnées. Bon, donc on modélise là les plaques par des pôles de rotation, comme c'est un peu illustré ici pour la plaque européenne. Vous avez un pôle de rotation qui se trouve quelque part au Canada, et toute l'Europe tourne autour de ça. Et vous remarquez que l'Arabie, par exemple, ne suit pas ce mouvement-là, mais un autre. Et vous remarquez que l'Islande appartient à deux plaques. L'Islande, elle est un côté européen, un côté américain. Bien, donc en Europe, qu'est-ce qu'on a décidé? En 89, on s'est dit quand même, on va pas changer nos coordonnées de 3 cm tous les ans. Donc on a fixé, on s'est dit, on se prend un système et on le fixe à l'époque 89. Voilà. D'où le système européen, ETRS 89, qui est donc le système international, mais fixé à l'époque 89, c'est-à-dire ce système est comobile avec la plaque européenne. Comme ça, au moins, on ne change pas trop de coordonnées. Bon, je dis pas trop, parce qu'on est bien obligé à ces niveaux de précision de faire attention quand même. Bien, comment ça s'est présenté en France? On a créé un système géodésique un peu nouveau, le RGF 93, donc une première réalisation en 93, justement, à partir de certaines stations GPS, mais qui n'était pas d'une grande précision. On avait en plus du VLBI mobile, qu'on louait aux Américains, donc on avait mis à Brest, à Grasse, enfin à Cossoles et à Toulouse. Bon, donc c'est la première solution, qui a été densifiée, ce qui fait qu'on a continué l'idée d'avoir des points matérialisés, donc dans un réseau dit de base, sur lequel, bien sûr, c'est un petit intérêt quand même de voir comment on peut assurer ce type de transition, c'est-à-dire que notre GPS était quand même stationné des bornes de la nouvelle triangulation de la France. Donc avec tout ça comme point dit en colocalisation, de manière quand même à assurer la transition des deux systèmes. Donc on a trouvé ce genre d'écart. En gros, les plus gros écarts sont de 4 mètres en Bretagne. Donc voilà. Donc c'est un peu les... Tout à l'heure, on avait dit que la NTF valait 1 cm par kilomètre. On disait qu'il pouvait y avoir des écarts de 10 mètres entre Dunkerque et Perpignan. Vous voyez qu'ici, entre Dunkerque et Perpignan, il y a plutôt 1 mètre. Bon, mais enfin, c'est bien cet ordre de grandeur-là. Bon, bien sûr, cette transformation a été modélisée pour pouvoir permettre aux utilisateurs de passer doucement d'un système à l'autre sans avoir tout à recommencer. Je passe sur les algorithmes, je passe peut-être aussi sur les différentes projections qui sont l'avatar de Cassini, qui nous avait fait la première en XY. Bon, donc il a fallu continuer à en faire, parce que nos géomètres utilisent des projections, bien, avec bon, les systèmes. Donc un nouveau système, le RGF-93, avec une exactitude centimétrique, et non plus relative, ce n'est pas une précision de 1 cm par kilomètre, comme on le disait avant, là c'est de l'absolu. On passe, dernière étape actuelle, au réseau spatio-actif, non plus l'observation par GPS de points matériels, mais carrément des stations permanentes. Donc tout ça dans un contexte nécessairement mondial. Hein. C'est-à-dire on passe de l'IGS avec tous les modèles de vitesse à un système européen et un système quand même national, compatible avec tous ces systèmes internationaux. Aussi bien sur le plan vertical, dont on n'a pas trop parlé, parce que ce n'était pas l'époque de Cassini. C'est-à-dire, bien sûr que la Terre n'est pas un ellipsoïde du tout, mais bon, une patatoïde dénommée géoïde actuellement, bien sûr, dont on est capable de cartographier relativement bien maintenant les écarts à l'ellipsoïde. Voilà. Donc en restant dans le principe du système de référence, c'est que vous aviez plusieurs instrumentations qu'il a fallu s'attacher quand même à faire en sorte de rattacher, c'est-à-dire en haut à gauche, vous avez une antenne VLBI, à droite, pour la photo du haut, c'est une antenne Doris. En dessous, vous avez un laser satellite. Tout ça, c'est sur le site d'Afrique du Sud. Hein. Et dans la photo de droite, vous avez encore l'antenne VLBI et une antenne GPS en premier plan. Voilà. Tous ces instruments doivent pouvoir être attachés au millimètre pour qu'on ait une référence internationale cohérente. Bien, du point de vue français, un réseau GNSS permanent. Donc GPS au départ, mais c'est rajouté le système russe GLONASS et maintenant Galileo. Donc avec un certain nombre de stations, on a donc actuellement 300 stations, je l'ai dit là-dessus. En 2001, il y avait 15 stations en France. Maintenant, en 2012, 332 stations qui sont faites au travers de différents partenariats. Bien, le réseau géodésique français lui-même s'est enrichi de ce réseau permanent. Donc on lui a fait une petite retouche en 2010, parce que les déterminations de 93 étaient... 93, c'était l'aube du GPS. Pour faire du GPS, il fallait attendre certaines constellations, etc. On ne pouvait pas observer en permanence, etc. Alors que maintenant, on a des réseaux permanents qui observent en permanence. C'est-à-dire qu'on a, en 2010, on avait 10 ans de données consécutives exploitables. Donc on s'est dit, on fait quand même un petit effort. Et donc, avec un recalcul de l'ensemble du réseau permanent, dans le cadre européen, sachant qu'on a des solutions mondiales continues, l'IGN calcule tout ce réseau, tous les jours. Bon, juste pour dire qu'il faut faire de temps en temps un peu de maths, mais c'est pas méchant. C'est parce qu'il faut quand même savoir changer dans les systèmes différents, sans plus que ça. Donc bon, cette réflexion nous a amené à voir qu'en 93, on n'était pas très précis, et que donc on a ramené notre précision à l'ordre de 5 mm, et qu'on avait donc des écarts de 2 à 3 cm un peu partout. Donc actuellement, les réseaux sont également tridimensionnels, c'est-à-dire que la composante verticale importe beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup, par exemple, au niveau des marégraphes, pour savoir quand la mer monte, est-ce que c'est la mer qui monte ou la terre qui descend. Donc c'est très très important. Voilà donc le résultat d'une rénovation qui a été faite en 2010 pour dire que les coordonnées ont bougé de quelques centaines de mètres entre la NTF et le RGF-93, puis après on affine le prochain changement, on espère que ce ne seront que des millimètres. Bon. Et bien sûr, une grille de conversion d'altitude, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable maintenant, par GPS, de trouver une altitude ? Disons qu'on s'efforce de faire en sorte que par GPS, on puisse trouver une altitude au centimètre près. Donc avec des écarts que je saute un peu. Donc demain, c'est-à-dire aujourd'hui, que fait-on ? On a des réseaux très denses, on a des réseaux mondiaux, on a des constellations de satellites qui augmentent, on connaît de mieux en mieux nos vitesses, on connaît beaucoup de choses. Donc l'idée générale est de rester là. Je ressors le réseau Doris pour présenter essentiellement la vue de conclusion finale. Qui est celle-là, qui est du réseau que nous sommes en train d'installer actuellement, qui s'appelle le réseau Regina, qu'on met justement aussi sur des stations Doris pour être certain de ça. Et on pense à court terme que ce type de réseau doit pouvoir assurer un positionnement pour tout utilisateur sans avoir la densité des 330 stations en France, et une précision donc avec une exactitude de l'ordre du centimètre en temps réel pour tout utilisateur en France. Bon, voilà le point de la situation actuellement. Je vous remercie beaucoup.
Canal Académie vous proposait cette retransmission de la conférence d'Alain Armel du service de géodésie et nivellement de l'Institut géographique national. Il intervenait sur l'histoire des référentiels géodésiques à l'occasion de la journée scientifique 2012 organisé par le Bureau des Longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini. Retrouvez en fin d'article le diaporama qui accompagnait cette présentation. Canal Academy vous invite à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Academy dans la rubrique « En colloque ». Sachez que toute l'année, les conférences du Bureau des Longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.